s'était dit, je sais plus comment on était venu là-dessus, mais on s'était dit pourquoi on ferait pas un Ironman. Le truc très con quand t'es bourré, quoi, tu vois. Et on s'est inscrit. J'ai toujours aimé le blanc, la neige, je sais pas comment expliquer ça. J'ai toujours été attiré par ça. Peut-être qu'on peut juste croire tout simplement en ses rêves.
Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un passionné de gastronomie, Fred, qui est chef en Alsace, mais pas que. Fred, c'est aussi et surtout un véritable frappé qui a perdu 40 kg pour son premier trail, un 60 km, qui a pris le départ en 2019 de l'Ironman de Nice, et qui nous explique dans cet épisode qu'en 2025, sa prochaine aventure l'amènera en solitaire et sans assistance jusqu'au pôle sud. Alors ce que je retiens de cet épisode, et ce que j'ai envie de vous partager, c'est que finalement, ce qui est super important, c'est de croire en ses rêves et d'oser se lancer. Tout simplement parce que quand on se donne les moyens d'atteindre ses objectifs, ses rêves les plus fous, même s'ils paraissent complètement irréalistes à celles et ceux à qui on en parle, eh bien c'est là qu'on est parfaitement aligné avec qui on veut être. Donc un grand merci à Fred pour ce très très beau message qu'il a bien voulu nous partager lors de cet épisode. Merci également à Nadège pour la mise en relation. Je n'en dis pas plus, je vous laisse profiter de l'échange. Excellente écoute à vous, les frappés. Bienvenue Fred sur le podcast.
Merci beaucoup.
Très très content de t'accueillir. Merci beaucoup à Nadège pour la mise en relation. Nadège de Enjoy Trip. Allez écouter son épisode si ce n'est pas encore fait. Mais en tout cas, ouais, Fred, merci beaucoup pour ton temps. Merci de t'être libéré aussi rapidement. Et je suis super content de te recevoir pour qu'on puisse échanger sur ce que tu fais. Parce que c'est un univers, je vais le dire, tu es chef. Ça va être la première fois qu'on a un chef sur le podcast. Mais tu n'es pas que chef, tu es aussi un véritable frappé. Il y a une expédition en approche pour 2025 que je trouve absolument incroyable dont tu vas nous parler. Bref, on va parler de plein de choses, sans doute gastronomie, passion et puis aventure, ce qui est un combo super intéressant, mais j'en ai déjà trop dit. Fred, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être commencer par te présenter, nous expliquer qui tu es et ce que tu fais.
Ok, en tout cas, merci beaucoup Loïc pour l'invitation. Moi c'est Fred, j'ai 37 ans, je suis chef de cuisine dans un hôtel... hôtel-restaurant un peu particulier qui s'appelle le 48 degrés Nord à Brighton Bar. Particulier, pourquoi ? Parce que on a déjà des chambres qui sont un peu spéciales, c'est des hits un peu qui sont disposés sur une colline. Et l'axe central, c'est le restaurant. Un restaurant qui est 100% issu d'une agriculture biologique.
Ok.
Donc on est certifié. Également, on a pris le choix de faire une cuisine 100% locale. Donc, c'est-à-dire, tu ne trouveras pas chez moi, par exemple, du chocolat, parce qu'on est en Alsace, je précise. Donc, tu ne trouveras pas de chocolat, d'huile d'olive, de choses comme ça. Pas parce que c'est un effet de mode ou parce que c'est juste une réelle conviction qu'on a et qu'on partage avec toute l'équipe. Je pense qu'on a assez de choses à faire, si tu veux, chez nous, sans devoir faire venir de l'ananas ou des choses comme ça. Mais c'est un vrai... c'est un vrai choix et je ne fais pas de jugement aux autres restaurateurs qui ont de l'ananas. Mais en tout cas, voilà, c'est une conviction qu'on a et c'est pas non plus chauvin. Tu vois, je veux dire, ouais. Si j'avais été en Bretagne, j'aurais fait la même chose. tu vois, je me serais même éclaté avec les poissons, des choses comme ça.
Puis laisse pas de chocolat, c'est raide là pour moi quand même.
Ouais, pas de chocolat, ouais. Pour ma pâtissière aussi, je te cache pas. mais voilà, c'est un choix qu'on a fait. Et ça fait 2 ans maintenant. Alors au début, c'était plutôt compliqué. Mais aujourd'hui, ça tourne plutôt bien et on réussit plutôt bien ce qu'on fait. En tout cas, je pense.
Excellent. Excellent. Donc ça, c'est pour la partie cuisine.
Ouais.
À côté de ça, sur quelles autres activités est-ce que tu es engagé ?
À côté de ça, si tu veux, j'ai toujours fait un peu de sport. Beaucoup de foot, enfin étant plus jeune. Et après, j'avais pris le choix de faire de la cuisine, donc plus de sport parce que c'est un métier très prenant. C'est les week-ends, il n'y a pas de match. Enfin voilà. Et un jour, je me suis un peu, on va dire, je sais pas si on peut dire encrouté, mais j'ai pris beaucoup de poids et entre-temps, j'ai eu 2 enfants. Et un jour, j'ai une photo, si tu veux, de mon fils sur moi et sur mon ventre, en fait. Enfin, c'était plus le ventre que tu voyais, tu vois, et ça m'a fait un gros, gros choc. Et je me suis dit, bon, on arrête tout et on va se remettre un peu au sport. Et on a commencé le sport. Ça s'est plutôt mal passé.
Ok.
Au départ.
Parce que t'as commencé par quoi comme
En fait, tout simplement à courir le matin. Enfin, okay. Tu vois, je voulais juste, avant de prendre mon service, j'ai commencé à courir. Et en pensant que... Enfin, j'avais fait un peu de boxe aussi, tu sais, avant, mais jamais trop poussé. Et je me suis dit, bon, ça va être facile, courir le tour du village, voilà.
Ouais.
En fait, non, pas du tout. Donc, je me suis dit, bon, tant pis, le lendemain, je prends le vélo, ça va être plus facile. Et non plus. Tu vois, j'ai essayé de faire une pente, mais vraiment, je t'assure, c'était... Je suis rentré, j'étais en larmes, quoi. Je me suis dit, j'ai jeté le vélo, je me suis dit, putain, je suis même pas capable de faire du vélo, quoi. Parce que j'étais quand même arrivé à 130 kilos, tu vois.
Ok.
Et là, ça m'a mis vraiment une grosse claque et j'ai essayé de me motiver, sur des écoutes sur YouTube ou des choses comme ça, de motivation un petit peu. Et ça a commencé comme ça avec 2 km, 3 km et ainsi de suite. Sur du 10 km après. Et après, au fur et à mesure, je courais toujours. J'avais, si tu veux, le même chemin sur une piste cyclable et il y avait toujours un petit endroit à droite où tu pouvais tourner en forêt. Et j'ai pris ce chemin-là une fois en forêt et c'est cool de courir comme ça. Sauter un petit peu et j'ai un peu cherché et je me suis dit tiens ça s'appelle du trail et en fait je me suis dit allez on va se lancer un défi on va s'inscrire à un trail. Le problème qu'il y a c'est que je fais jamais si tu veux les choses je vais même pas dire à moitié parce que
ouais.
Faut toujours je me trouve des défis et ma femme enfin ça la fatigue parce qu'elle me dit mais tu peux pas juste faire un semi-marathon ou courir 10 km. Et en fait, non, je me suis inscrit à l'Infernal des Vosges à l'époque. C'était 60 km.
Oh, punaise.
Avec, okay. Je crois, presque 3000 de dénivelé.
OK.
Et en fait, donc l'objectif, c'était ça, quoi, en fait.
Et t'es allé au bout ?
Et je suis allé au bout. Mon grand frère m'a s'est inscrit aussi parce qu'il m'a dit, non, mais tu peux pas faire ça tout seul, c'est pas possible. Et en fait, c'était un peu notre objectif. Donc, moi, je courais beaucoup. Enfin, voilà, j'avais vraiment pris le truc. J'ai perdu énormément de poids. Si tu veux, le jour de la course, le matin, enfin, la veille, je m'étais pesé. Et de 130, enfin, 126 des brouettes, je suis quand même descendu à 89 kilos.
Ah ouais, quand même.
En 6 mois, je crois. Alors, j'ai fait vraiment beaucoup de bêtises. Hein, tu vois, j'ai fait des salles régime, j'ai fait. Enfin, voilà. Et on est parti au bout des 20 premiers kilomètres ou je sais plus ou 10 premiers kilomètres au ravitaillement, je me suis dit enfin j'arrête, c'est plus possible. Tu vois, mais j'avais bu 2 litres d'eau, enfin j'avais fait n'importe quoi, j'avais vomi au ravitaillement.
Ah ouais.
Ah ouais non, c'était pas une partie de plaisir, hein. Vraiment je suis pas voilà. Mais au final on a réussi, on a terminé ce trail et c'était le début après de d'autres trails et voilà.
OK. Excellent. Oh là là, excellent. Bon, on va creuser tout ça. super intéressant, ça me fait penser. C'est marrant, tu vois, l'anecdote que tu partages là, sur le déclic, cette photo que tu as vue. Mm. C'est un peu ce que racontait Nahu. Nahu El Passrat, c'est un autre invité que j'ai eu 2 fois sur le podcast. Qui fait, alors lui, il ne dit pas ultra trail, il fait de l'ultra montagne.
D'accord.
Qu'il fait, tu vois, c'est genre, il fait un 150 km avec 15 000 de dénivelé. Voilà, c'est son délire. Et en fait, c'était un peu la même histoire, tu vois, c'était un footballeur, je crois qu'il était en centre de formation, il me semble, gardien de but, et en fait, il a tout arrêté du jour au lendemain, il a pris énormément de poids,
Et jusqu'à ce qu'un jour, son père lui dise tu viens avec moi, c'est plus possible, hein, on va faire la course du village d'à côté. Et où il a fini, je crois, avant-dernier. Et c'était une course de village où tu partais du village et t'es arrivé limite un kilomètre vertical, tu vois. Okay. Et en arrivant en haut, il s'est retrouvé face au panorama, il s'est dit ok, je suis arrivé avant-dernier, mais c'est ça que je veux faire. Et aujourd'hui, il fait la diagonale des fous, je crois, il fait top 15, enfin voilà. Il s'éclate là-dedans. Donc, intéressant de voir, tu vois, c'est des histoires qui se ressemblent un petit peu sur ce moment de déclic. Ok. Alors, t'expliquer ce qui a mis un arrêt au foot, ça a été le chemin que tu as pris pour partir sur...
sur la cuisine, ouais, c'est ça.
Sur la cuisine. C'est quelque chose... Alors, moi, j'ai travaillé longtemps chez Apple. Et chez Apple, je ne sais pas pourquoi, dans la partie en tout cas retail, donc les Apple Store, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anciens qui sont passés par l'hôtellerie-restauration. Beaucoup, 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 tu vois. Je pense parce que tu as ce côté, comment est-ce qu'on appelle ça, accueil du client, tu vois, attention aux détails, etc. Je pense que ça vient de là. Et tous les récits, moi, je n'ai jamais travaillé dans ce secteur, mais tous les gens à qui j'en ai parlé, qui viennent de la restauration, de l'hôtellerie, etc., j'ai un peu l'impression que c'est un métier, enfin c'est plus qu'un métier, c'est carrément un mode de vie, c'est-à-dire que c'est commun, tu vois, quand je leur demandais ça ressemblait à quoi ta semaine, etc., ils me disaient, je sais pas, 80 heures par semaine, tu vois.
Ouais, non, mais
j'ai vraiment l'impression que c'est quand tu vas dans ce parcours, full c'est in, quoi.
Après, je pense... Vraiment, n'importe quel chef ou cuisinier ou n'importe que tu vas interviewer ou même avec qui discuter te diront que effectivement c'est très dur. C'est on fait 80 heures, on fait ou plus. Hein, mais alors, c'est assez délicat parce que surtout aujourd'hui, quand tu entends tout ce qui se passe où il n'y a plus de personnel, on ne trouve plus personne. Ouais. Donc c'est assez délicat de te dire que. Et je vais pas te, enfin je vais te le dire, mais sans vraiment le penser, qu'il faut passer par là, si tu veux.
Ouais.
Mais enfin j'en suis pas mort quoi. Ouais. Alors oui c'est très difficile. Oui je pense réellement que des personnes peuvent le vivre différemment et c'est là où c'est un réel problème vraiment. Que ça soit au-delà des heures hein, je veux dire les heures à la limite je pense que c'est même pas ce qui est le plus grave dans le métier. C'est plus si tu veux ce qui peut se passer dans la cuisine quoi.
Ah ok, ah, par exemple, c'est-à-dire que c'est pas forcément un cliché ces images qu'on voit parfois tu vois, dans les films où le chef hurle à plein poumon sur ses équipes.
Ah non, pas du tout. Et je peux même te le dire parce que moi j'ai été comme ça, donc si tu veux, on n'est pas, j'en parlais il n'y a pas très longtemps en plus de ça, on n'est pas préparé, moi je sors, j'ai juste un CAP, tu vois, de cuisine. Et le jour où on te dit, ça y est, aujourd'hui t'es chef et t'as 8 personnes derrière toi qu'il faut gérer, je parle même pas de management hein, parce que moi à ce moment-là je savais pas du tout ce que c'était et tu suis ce qu'on t'a montré enfin, ou ce que t'as vécu ou t'as peut-être pas le recul à ce moment-là, enfin moi je l'ai pas eu, de te dire on va peut-être pas refaire les mêmes bêtises qu'on a fait avant, tu vois, et du coup t'es tout puissant et c'est très facile de crier, de t'emporter et peut-être que tu penses qu'on va te respecter comme ça. Et après, au fur et à mesure, il se passe des choses et tu te dis, maintenant, on va peut-être arrêter.
Ouais.
Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il faut le dire. Et moi, j'ai pas honte de le dire que, oui, effectivement, j'ai été comme ça. C'est ce qui m'a permis d'être maintenant comme je suis, tu vois. De pouvoir gérer les équipes et il y a de l'humain, tu vois, d'abord. Voilà.
Ouais. Parce que du coup, je pense que c'est assez clair pour tout le monde que c'est un milieu qui est exigeant. Mais j'imagine qu'il y a forcément quelque chose de positif qu'on y trouve pour que les gens, tu vois, comme toi, qui fassent de vraies carrières, enchaîner les semaines infernales, des rythmes très soutenus, etc. Donc, toi, ça a été quoi ? Qu'est-ce que tu as trouvé en cuisine qui fait que tu y es encore aujourd'hui et que visiblement, ça continue de t'animer très fortement ?
Ah moi c'est ma vie hein, la cuisine. Donc effectivement là je t'ai fait un petit moment un peu plus sombre, mais si tu veux de l'autre côté c'est un vrai, enfin moi j'ai un bonheur à être dans ma cuisine avec mes équipes, enfin et même avant tout ça de te lever le matin, de base si tu veux quand j'ai commencé la cuisine j'ai fait totalement autre chose, tu vois, j'étais tourneur fraiseur. Et je voulais toujours faire de la cuisine, mais on m'a toujours dit non, tu sais, mes parents m'ont toujours dit non, tu vas travailler les week-ends, ça va pas te plaire. Et j'ai toujours, moi, ça, ce côté où je suis un peu buté, où j'aime faire les choses que les gens me disent de pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'était un peu mon truc de me rebeller hein, à ce moment-là, de dire non, ben, je vais pas faire ce que vous me dites, je vais faire de la cuisine, puisque vous êtes sûr que je vais pas y arriver. Et après, j'aime aussi ce côté un peu militaire, tu vois, qu'il y avait à ce moment-là. En cuisine, où on dit oui chef, ou enfin voilà, moi j'aimais ça. Et après, bah, tu fais des trucs super cool, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, alors au tout début, oui, c'est dur parce qu'il faut que tu apprennes les bases, il faut dans n'importe quel métier, tu vois, peut-être que tu t'éclates pas autant que je m'éclate aujourd'hui, mais il faut passer par là, et après, bah, je sais pas, avec une carotte, tu te rends compte que tu peux faire des trucs super cool. Bah, tu vois, chez nous aujourd'hui, on est beaucoup sur le végétal. Et c'est top quoi. Enfin, il y a une créativité bon que tu as pas au début, mais et qui se travaille. Mais après, t'as une créativité et t'es libre, tu vois. Et tu peux te transmettre quelque chose, que ça soit aux équipes, que ça soit aux gens qui viennent manger, que ça soit tu vois, il y a des émotions. Et ça, c'est génial quoi.
Est-ce que tu arrives aussi à avoir des retours de clients, etc., parce que tu évoques les émotions, tu vois, donc je pense que, enfin, j'imagine à quoi ça peut ressembler en cuisine, à gérer des équipes, à essayer d'inventer des choses nouvelles avec ce que tu trouves autour de toi géographiquement. Mais est-ce que tu arrives aussi en tant que chef maintenant à avoir des échanges avec tes clients?
Oui, beaucoup. Alors, pour être honnête, j'ai un peu de mal, moi, encore à sortir en salle, parce que je suis quelqu'un assez timide, mais oui, on arrive à échanger, et en plus c'est super chouette quand les gens te disent c'était quand lundi soir, on a eu des gens qui sont venus manger et j'avais fait un travail autour du salsifis, et ils me disent mais en temps normal c'est pas possible le salsifis, enfin, tu vois, on mange ça, et c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, on a le souvenir du collège ou de la cantine où tu connais le salsifis en boîte, et ils ont redécouvert ça, et ils vont le faire à la maison, et tu vois, c'est super chouette. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça où j'ai déjà eu une dame et j'aime pas trop le dire parce que il y a un côté très prétentieux, mais j'ai une dame qui avait vraiment, et pour le coup c'est véridique, mais qui avait, tu vois, on avait fait une assiette autour du navet façon carbonara avec des, voilà, c'était très joliment dressé, et la dame elle avait les larmes aux yeux, elle s'est dit mais waouh, qu'est-ce qui se passe là, c'est tu vois, et voilà, et après il y a plein de choses, mais au-delà de ça, on a aussi eu des enfants du village qui sont venus pour faire la semaine du goût, là, il n'y a pas trop longtemps. Et ils sont venus cette semaine me ramener un grand poster avec des photos, et chacun a fait un dessin. Et je te jure, mais qu'est-ce que c'était émouvant. Enfin, tu vois, on a pu toucher. Et qu'est-ce que ça m'a pris? Ça m'a pris une demi-journée de préparer ça pour les enfants.
Ouais.
C'était génial, génial.
Et du coup, sur cette notion de créativité, comment est-ce que toi tu le fais? C'est-à-dire, est-ce que tu te fais des sessions, je sais pas, brainstorming, où tu prends un bout de papier et t'écris des idées, ou tu vas dans d'autres restaurants? Comment ça se concrétise pour toi?
Alors, si tu veux, on est toujours inspiré. Surtout aujourd'hui avec les réseaux, tu vois beaucoup de choses sur ton feed d'actualité, des choses que tu aimes. Donc moi, je suis très inspiré par la cuisine nordique, le Noma. Enfin, plein de chefs comme ça, ou même d'ici, tu vois. On est en plus en Alsace, dans une région où il y a des chefs vraiment très très talentueux, et je pense qu'on le dit pas assez. Mais autre que Paris, tu vois. Et tu peux très vite t'inspirer. Alors, il ne faut jamais copier, et je le dis haut et fort. Mais on peut s'inspirer, et voilà. Mais il faut surtout pas copier, parce que. Et après, de toute façon, c'est une cuisine d'émotion, donc tu peux pas, je pense, faire un plat et te dire, tu vois, alors que tu l'as copié. Voilà, mais non, je fais pas de journée où je me pose. C'est plus sur l'instinct. Tu vois, ce matin, avant de te prendre, j'étais au serveur du riz d'un des fournisseurs avec qui je travaille sur les légumes. J'y étais, j'ai cherché ma commande, et il me dit, écoute, j'ai ces betteraves, est-ce que tu peux les passer? Enfin voilà, on avait beaucoup, donc elle me demandait, et voilà, et donc là l'idée ça va être faire un truc autour de la betterave, parce que j'ai le moment où elle me l'a dit, et donc voilà, c'est plus sur des, si tu veux, des petits moments comme ça où je peux aller dans mon potager, parce qu'on a un potager au restaurant, j'ai l'inspiration qui vient. Tu vois, je j'arrive pas à me poser et me dire tiens, je vais inventer ça, ça, ça.
Ouais.
Tu vois, c'est plus sur le fait de voir des choses, sur de goûter, de sentir. Ça peut être une discussion avec quelqu'un, ça peut être voilà.
Ok. Et donc après, une fois que tu as l'idée, comment ça... Je suis désolé hein, si les questions sont un peu bêtes, mais comme je trouve ça assez fascinant, tu vois, ce côté à la fois très, tu l'as dit, un peu militaire, forcément, il faut que ce soit, tout soit parfaitement cadré, que les plats soient préparés dans les temps. Et en parallèle de ça, il y a quand même un aspect créativité hyper important. Donc je trouve que l'association des deux est vraiment intéressante. Du coup, quand t'as, tu vois, t'as ce, dans l'instant, tu te balades dans ton potager, boum, ça clique, t'as quelque chose qui te vient en tête. Comment ça se présente? Tu réunis les ingrédients que t'imagines et tu fais des tests cuisine,
c'est
toi?
C'est okay. ça, c'est ça. Alors après, souvent, t'as déjà un peu le plat, si tu veux, en tête, ça va assez vite. Mais à partir du moment où bah, tu le fais et tu le dresses, là, il y a un gros écart. Et là, bon, là, il y a encore du boulot. Mais quand tu l'as en tête, c'est très facile. Tu te dis, ah, ça va être génial, on fait ça, ça, ça. Et quand tu commences à le faire, bah, tu te dis, ah ouais, mais j'avais pas pensé à ça, ou ça marche pas. Et après, quand tu le dresses, tu l'as, si tu veux, en tête, le dressage. Et quand tu le fais, bah, tu te dis, putain, mais c'est quand même dégueulasse, quoi. Il y a plusieurs affaires, il y a plusieurs trucs. Mais voilà, ça fait partie. Et il y a des fois où ça marche du premier coup et c'est génial, quoi.
Tu dirais que ce serait quoi ton meilleur souvenir par rapport à cette notion d'invention, de plat, de créativité? S'il y a une expérience qui t'a vraiment marqué dans ta carrière, ce serait laquelle?
Je sais pas vraiment, parce que en fait, si tu veux, en plus moi j'ai pas de plat signature ou de choses comme ça, donc c'est plus tu vois, ou sur un le truc là où on a beaucoup travaillé avant de pouvoir le mettre, c'est sur les jus de légumes. Où on a beaucoup bossé avec les équipes, en fait, c'est de travailler un légume comme un jus de viande. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais de faire retirer les os, les carcasses de volaille, des choses comme ça. Et en fait, nous, on a fait un peu la même technique, mais avec des légumes. Et on a mis du temps parce que nous, on prend pas de farine. Enfin, voilà. Dans certaines sauces, dans certains restaurants, on met de la farine, on appelle ça singer. Ça permet que ça soit une consistance, tout ça. Mais nous, du coup, on fait pas du tout ça, on met pas de farine, c'est que des réductions. Mais on s'est rendu compte en faisant plusieurs essais que on n'arrivait pas, si tu veux, à ce côté sirop, tu vois, que tu peux avoir des fois dans une belle sauce de viande. Et c'était plus un truc liquide et on n'arrivait pas. Et même en réduction, c'était pas parfait. Et en fait, on a trouvé je vais peut-être pas te dire là, mais on a trouvé le petit truc qui fait que en ajoutant quelque chose de c'est pas un ajout chimique ou quoi que ce soit, c'est très naturel, c'est un légume, mais voilà. Et on a ajouté ce légume-là et on s'est rendu compte que bah, ça avait complètement transformé le truc. Et du coup, là, on y est, quoi, tu vois. On se dit, on a réussi à faire quelque chose, quoi.
Et jusqu'à arriver à trouver cet ingrédient secret, il t'a fallu combien de temps?
Je sais pas, c'était plusieurs semaines, parce qu'après, honnête, quand on te dit on fait des tests de recettes, ou quand tu peux échanger même avec d'autres chefs, j'ai mis un an à faire ça, faut comprendre que les mecs, ils font pas ça tous les jours non plus. Tu vois, ils ont leur service, ils ont, voilà. Mais le temps que tout ça aboutisse, que tu le mettes un peu de côté, parce que bon moment, ça te prend trop la tête, tu passes à autre chose, ça peut mettre un an, ça peut mettre, comme les sauces, ça a mis plusieurs semaines,
Ok. Non, mais c'est aussi intéressant, tu vois, parce que, cette notion de patience, de travail dans le fond, etc., sur la durée, je trouve que c'est aussi intéressant. Mmh. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps. Alors, c'est un chef de... je crois que c'est le Ritz à Paris. C'est quoi la place? C'est Place Vendôme?
Oui.
Qui part faire un trip aux États-Unis dans un food truck.
Ah, c'est le chef pâtissier, ouais.
Ouais, exactement, le chef pâtissier. Et tu vois, je viens de m'en rappeler, c'est marrant qu'on fasse l'épisode maintenant, parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'était fascinant, tu vois, c'est exactement ce que tu racontes, c'est-à-dire que il y avait, je me rappelle plus des détails, mais il y avait certaines pâtisseries, il a mis vraiment longtemps avant de trouver la bonne texture, la bonne couleur. Et je trouve ça fascinant, en fait, de te dire que tu passes autant de temps, autant d'énergie, autant de neurones aussi, parce qu'il faut, tu vois, essayer de réfléchir, trouver les bonnes choses, pour finalement un plat qui va être consommé, tu vois, qui est quelque part un peu éphémère. C'est rigolo, je sais pas si c'est un paradoxe, mais
non, mais c'est ça. Et en plus d'être éphémère, c'est que c'est aussi une partie de toi quelque part, tu vois.
Ouais.
parce que c'est un truc, comme tu dis, où on a travaillé, enfin voilà, très longtemps, où, et en plus, c'est une, enfin en plus, moi, c'est une cuisine assez personnelle, parce que du coup, je fais des choses que j'aime moi d'abord, tu vois.
Ouais.
Et, mais c'est un choix. Enfin, parce que sinon, je pense que si je ferais des choses que tout le monde aime, ben moi, je prendrais moins de plaisir. Et, enfin, voilà.
Ouais. Burger frites.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais attention, j'ai brownie au chocolat.
J'aime beaucoup en manger. Hein, je j'ai rien contre. Ouais. Mais, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que je ne pourrais pas m'éclater autant. Tu vois, si, enfin, j'ai été bridé très longtemps. Et jusqu'à, ben, pour être tout à fait honnête, jusqu'à il y a 3-4 ans, où j'étais chef d'un restaurant et je ne pouvais pas faire vraiment tout ce que je voulais. En termes de création, et donc il fallait garder, si tu veux, des choses qui étaient à la carte depuis 10 ans. Il fallait garder toujours des pommes de terre, des féculents. Des, et moi, je voulais aller ailleurs, quoi, tu vois, c'était plus possible. Et là, là où je suis actuellement, c'est carte libre, et c'est là que tu prends le plus de plaisir, quoi.
Ouais, génial. Génial. Alors, tu l'évoquais. Tu l'évoquais tout à l'heure, tu en parallèle de la cuisine, donc tu t'es remis au sport, il y a eu ce premier trail. C'était ton tout premier trail, hein, c'est ça, les
60 km ? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il me semble. J'avais fait juste avant avec mon beau-frère, j'avais fait comment ça s'appelle, course à obstacles.
Ah, une Spartan ou quelque
chose comme ça. Non, mais en plus light, hein. Le Mud Day, un truc comme ça, je crois.
Le Mud Day, ouais.
Ouais, c'est ça. On avait fait ça avant. On avait fait pour la préparation. Mais ouais, non, ouais, c'était ça.
Ok,
c'était ça.
Ok. Donc, et aujourd'hui, tu continues du coup le trail ?
Non, enfin un petit peu, mais si tu veux, après tout ça, j'ai un petit peu lâché. Et après plusieurs courses, j'avais envie de faire autre chose ou peut-être d'arrêter, je sais pas. Si tu veux, j'avais fait trop, je pense.
Ouais.
Et beaucoup de restrictions, beaucoup de choses, et donc pareil, je me suis de nouveau un peu laissé aller, et en fait, une fois en discussion à Noël avec Boris, on s'était dit, je sais plus comment on était venu là-dessus, mais on s'était dit pourquoi on ferait pas un Ironman, le truc très con quand t'es bourré, quoi, tu vois. et on s'est inscrit. Et donc moi j'ai reporté du coup le premier parce que j'étais pas prêt, parce que j'avais pris tellement ça à la légère.
C'était lequel du coup?
Nice. Oh. En Nice. 2018, ah ouais, okay. Je crois. Et du coup on a reporté à 2019. Et mais je t'assure que, enfin 4 mois avant, je savais pas nager, quoi.
Wow.
Enfin je savais nager comme n'importe qui, je pense, mais tu me demandais de faire 500 mètres.
Ouais.
Après je mettais 8 heures, je crois.
Ouais.
et du coup ouais, après j'ai un peu relevé les manches et j'ai enchaîné les entraînements et tout ça, et c'était très cool. Et le jour J, pareil, hein, ce syndrome, je sais pas si on peut appeler ça un syndrome, mais ce truc d'imposteur, tu vois, où t'arrives sur la ligne de départ, je me dis putain, mais c'est pas possible, je suis le seul comme ça. Enfin tu vois, j'avais je sais plus combien je faisais plus de 100 kilos. Non, peut-être un peu moins, entre 95 et 100 kilos. Et tu dis, merde, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Enfin, tu vois, dans quoi je me suis embarqué. Tu sais, j'avais les pieds sur les pavés à Nice. Et au final, le top départ était parti, quoi. Et c'était très cool. Et bon, j'ai pas réussi à finir. Parce qu'en fait, si tu veux, au dernier tour du marathon, tu sais, tu fais les boucles sur la promenade des Anglais.
5 boucles, c'est ça, non?
Ouais, à peu près, enfin 4, ouais, à peu près, c'était ouais. 42. Ils avaient réduit parce que c'était le jour de la canicule, tu vois.
Ah, ok.
Donc, okay. Ils avaient maintenu la course, mais réduit un peu les distances. On avait fait 150 de vélo et c'était 30 km, 32 km de course à pied. Et au dernier tour, en fait, j'étais hors délai de, je sais plus, de pas grand-chose en plus. Mais donc, ils m'avaient arrêté à 10 km. Mais voilà.
Ah, ouais. Attends, mais du coup, ça veut dire... Bon, déjà, t'en parles comme ça, je me suis inscrit à un Ironman. Franchement, chapeau, parce que pour en avoir préparé un, c'est quand même vraiment intense. Et hors délai, donc ça veut dire que t'étais à combien d'heures d'épreuve déjà?
Je pourrais pas te dire, je sais plus du tout. Faudrait que je regarde sur les temps, mais...
Ça doit être 14 ou 15, non?
Ouais, à peu près, ouais.
Ouais, donc c'est quand même... Enfin, tu vois, t'as été...
La natation, j'avais fait en 1h30, je crois. Et le vélo, je sais plus du tout. Mais le vélo, c'était oh là là.
Ouais, c'est pas plat là-bas.
Non, non, pas du tout. J'ai vraiment cru.
Ok.
Je te dis, c'était la canicule. Hein. Il faisait. Oh là, ouais, non.
Mais je me rappelle de cette édition. Je crois que c'est là où ils avaient installé des sortes de portiques brumisateurs.
Oui,
sur
c'est
le...
ça. Ouais. Hein, c'est... Ouais. Mais bon, de l'autre côté, avec tout le respect que je dois encore à l'Ironman, à la franchise, on est quand même arrivé à un ravitaillement. Il n'y avait plus d'eau, quoi.
Ah. Ah ouais, c'est embêtant ça.
Ah ouais, un petit peu, ouais. Et heureusement qu'il y avait le village un peu plus loin, qui un monsieur qui avait sorti son jet d'eau, et voilà. Mais voilà, on avait vraiment plus d'eau, quoi. C'était au ravitaillement. Ah, okay.
Mais okay. Voilà. Et t'en gardes quand même un bon souvenir, alors, visiblement.
Ouais, super, super. Alors, j'étais très triste à la fin, bien sûr, mais bon, avec le recul, c'est de ma faute. J'avais quand même mieux me préparer. Mais sinon, non, c'était vraiment génial. Enfin, tout... Ce qui me plaisait peut-être le plus, c'était la préparation. Tu vois, c'était justement ce côté un peu où il faut cadrer les choses, il faut. Tu vois, alors qu'en cuisine, le côté. C'est aussi cadré, mais t'as. La créativité, c'est un peu. C'est un peu comme un artiste, entre guillemets, où tu pars dans tous les sens, où tu. Voilà. Mais j'aime justement quand même cadrer les choses, tu vois. Ça me rassure et ça me fait du. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ça me fait du bien, tu vois, que ça soit cadré.
Ouais. Ouais, oui, c'est vrai que sur ta préparation de ton Ironman, a priori, enfin, quand tu te gères, je suis assez d'accord avec toi, tu vois. Moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était, t'es en maîtrise totale, en fait. C'est toi qui décides, tu construis ton planning, tu construis tes séances, tu
c'est
choisis ton équipement toi-même.
Moi, j'avais juste, si tu veux, un coach de natation, parce que ben, y avait pas le choix. Mais sinon, tout le reste, j'avais vraiment préparé moi-même avec des conseils, hein, d'un club. Enfin, voilà, j'étais quand même. Il y avait quand même des gens qui étaient là, mais j'avais pas de préparateur spécifique, voilà.
Ok, waouh, punaise. Et donc, depuis, t'en as refait un?
Alors, encore une fois, après ça, mon corps avait besoin de gras et mon mental. Donc, on est retombé dans un truc pas très bon, ou pareil, où j'ai arrêté le sport, ou parce que pareil, ça faisait beaucoup. Et si tu veux, j'arrive pas à trouver encore l'équilibre avec ça. Mais oui. On est de nouveau retombé là-dedans et de nouveau où je me dis maintenant faut que je fasse un peu attention. Et quand tu parles avec des copains qui font beaucoup de sport, qui font, t'as envie un peu de, parce que c'est bien beau de parler, oui moi j'ai fait ça, c'était cool, mais on s'en fout, quoi. Ce qu'il faut, c'est le moment présent, tu vois, et être bien dans ses baskets. Et du coup voilà, là je me suis réinscrit entre temps à l'Ironman de Copenhague. Et voilà, et en plus du projet Antarctique. Mais ouais, du coup, ouais, c'est l'Ironman de Copenhague là, le prochain en août 2023.
Ok, oh punaise. Ok, Ironman de Copenhague, très bien. Bon, t'as lâché le mot Antarctique.
Ah ouais.
On avait évoqué le projet au début. Moi, quand j'entends ça, ça fait sonner un peu toutes les alarmes sur le radar. Je dis oula, Antarctique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce délire avec l'Antarctique, Fred? Faut que tu nous expliques. Là.
Alors effectivement, je pense que c'est un gros délire. en fait, pour commencer du début, j'ai toujours aimé le blanc, la neige. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai toujours été attiré par ça. Plus jeune, si tu veux, on n'avait pas les moyens, nous, d'aller en classe de neige. Enfin, mes parents n'avaient pas les moyens de nous envoyer là. Donc, je sais, et pour être tout à fait franc, hein, ça risque d'en faire rire beaucoup, mais je ne sais pas du tout skier. J'ai dû skier une fois en ski de piste, c'était une catastrophe. Mais j'ai toujours été attiré par ça. Tu vois, le film Le Dernier Trappeur, Nicolas Vanier, enfin, des mecs comme ça, c'est le Cro-Blanc, c'est des trucs, ça m'a toujours, toujours fait rêver. Et j'avais toujours, tu vois, quand je préparais justement l'Ironman, j'avais toujours l'envie d'aller plus loin, Mike Horn, tu vois, ce côté de, je sais pas, d'être différent. Tu vois, je sais pas comment trop expliquer ça, mais j'avais toujours envie de faire des choses un peu différentes et d'aller plus loin. Et c'est ce qui m'a après attiré dans ce projet. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire tu vois, l'idée d'abord, c'était là, il n'y a pas très longtemps, de traverser la France en vélo, de faire des trucs comme ça. Mais si tu veux, tu voyais tellement de personnes le faire que je me suis dit, on va me dire, ouais, tu as vu ça là, tu veux le faire, c'est un effet de mode. Enfin voilà, il y a un truc où je voulais que ça soit plus personnel. Et je suis tombé un jour sur Mathieu Torder.
Ah, ouais.
Donc, il a fait ça. Et je me suis dit, putain, mais c'est ouf, quoi.
Donc Mathieu Tordeur, je crois que donc c'est un, il est membre de la Société des explorateurs français. Ça a été, si je me trompe pas, le plus jeune Français à avoir atteint le pôle sud en solitaire et sans assistance.
C'est ça, en 50, je sais plus, 51, je sais plus, je vais pas dire de bêtises.
Ouais.
Mais c'est ça.
Donc c'est son récit qui t'a.
Ouais, c'est ça. Et c'est ce, comme au tout début quand j'avais fait le premier trail, tu vois, c'est ce côté de faire beaucoup plus que ce que je suis capable de faire pour me permettre à me motiver et voilà.
Donc, tu vois le récit de Mathieu Tordeur. Donc ça, c'était quand que tu as découvert
C'était il y a quelques mois. Parce que okay. ça s'est enchaîné très vite. Hein. Non, je sais pas. Il y a peut-être un peu moins d'un an.
Ok. Donc, tu vois ça. Et là, immédiatement, tu te dis, ok, je veux faire ça. Je veux atteindre le pôle sud.
Alors... Ouais.
C'est ça. j'ai bien les... parce que moi je te vois, donc les gens le verront pas, mais peut-être qu'ils entendront la voix. Il y a eu un moment d'hésitation en mode est-ce que je me l'avoue à moi-même ou pas, et puis en fait ouais, dès que j'ai envie de le faire. Ok, donc rejoindre le pôle sud en solitaire sans assistance, donc ça veut dire avec Poulka et tout ton matos, toute ta nourriture.
Ouais.
Ski, ski kite ou ski
ski de rando.
Ski de rando, ok. Donc pas d'assistance avec une voile.
Non, pas du tout. Non. Okay. C'est vraiment le but.
Ok.
Ouais.
Exceptionnel. Ok. Et donc ça, c'est prévu pour
2025. Parce que justement, je voulais quand même que ça soit crédible et parce que ben, c'est un gros projet qu'il faut monter. Et encore une fois, j'aime pas le mot projet parce qu'il y a un côté, où ouais, ça reste un projet. Tu vois.
Ouais.
Alors que non, c'est acté. Une agence de com qui me suit, qui s'appelle Isaac, avec qui ben, c'est vraiment eux qui m'aident au quotidien avec ça. Et on a vraiment lancé le taf. Et ouais, c'est pour 2025. Et l'idée, parce que l'année prochaine, tu vois, c'est pas crédible. Il faut quand même rester. Enfin voilà, j'ai beaucoup de travail à faire. J'ai une perte de poids. J'ai ben le sport aussi à mettre. Enfin, il y a une réelle organisation, mais ça se fait pas comme ça, tu vois.
Ouais. Perte de poids, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à partir un peu chargé quand même pour avoir des réserves? Je crois que c'est Mike Horn qui expliquait qu'il prend beaucoup de poids en fait avant ses expéditions.
Alors je sais pas, peut-être que ça je verrai par la suite. Parce que moi l'idée c'est de le faire en 60 jours. Alors je sais pas s'il y a un réel intérêt après. Voilà.
Okay,
en tout cas, moi le poids, si tu veux, c'est pas du bon poids, on va dire. Tu
vois, je vois. Ouais, tu vois,
il faut voilà.
Ok. Oh là là, génial. Puis là, c'est top. Ce qui est super intéressant, c'est que la plupart du temps, en fait, j'ai des invités qui ont déjà réalisé des expéditions, des aventures, des projets. Et donc, on parle toujours un peu de la façon dont ils l'ont mis en œuvre, etc. Mais c'est cool aussi d'échanger, tu vois, sur des... Bon, j'utilise le mot, même si tu n'aimes pas trop, mais sur un projet ou une expédition qui arrive pour voir un peu comment tu vas la préparer. Mais si tu as des questions un peu plus tu vois, spécifiques sur le matos, etc., je pourrais essayer de voir s'il y a d'autres anciens invités. Je pense à Vincent Colliard.
Avec grand plaisir, parce que tu vois, moi, c'est vraiment le tout début où on commence. Parce que tant que rien n'est acté, tu n'y crois pas trop, alors tu traînes un peu des pieds, tu as le temps. Sauf que là, ben, tout est vraiment lancé. Et là, on a, tu vois, j'échange également avec Alban Michon. Qui a créé l'école des explorateurs.
Ouais.
Et là, je vais le voir à Tignes fin janvier. Je vais passer 3 jours avec lui. Et voilà, ça va être trop cool. Mais voilà, je suis ouvert vraiment. Tu vois, là, je suis à la recherche d'un coach sportif. Je suis ouvert vraiment à n'importe quel renseignement. Et ce qui est important, moi, dans mon aventure, et c'est ce que je disais à Sébastien, qui est un peu le chef du projet chez Isaac, qui m'accompagne, c'est qu'il faut vraiment que ça soit humain avant tout. Tu vois, je veux bien avoir des partenaires et j'en ai besoin. Hein. Enfin, je veux bien, j'ai pas le choix. Mais il faut que ça soit humain avant tout. Tu vois, je veux pas prendre une marque parce qu'elle décide de me suivre et que c'est cool, mais faut que si derrière, si tu veux, il n'y a pas un côté humain, ben, ça marche pas, quoi.
Ouais, je comprends. Surtout quand tu pars dans des environnements vraiment risqués, quoi.
Ouais.
J'imagine que tu vois, t'as envie d'être sûr que t'as derrière, t'as pas une marque qui va t'appeler en te disant qu'est-ce que tu fous, accélère, c'est pas bon pour la com, tu vois. Ok, bah écoute, on regardera. On regardera, mais ouais, tu vois, je pense à Vincent Colliard, à Caroline Côté qui ont traversé le Svalbard ensemble. Caroline qui repart d'ailleurs, je pense que c'est dans les mois qui viennent, qui part faire exactement la même chose, expédition solo sans assistance pour atteindre le pôle sud.
Ok.
Je pense à Jérôme Brisebourg qui a fait les Seven Summits, donc tous les plus hauts sommets de chaque continent.
D'accord.
On en reparlera, mais voilà. Il commence à y avoir pas mal de gens expérimentés sur les milieux polaires sur le podcast. Donc, je suis sûr qu'on va trouver,
on va trouver des
personnes qui seront OK pour t'aider. Super. Et donc, tu parlais, t'expliquais que t'as dû prendre cette. Enfin, tu travailles avec cette agence, Isaac, que je ne connaissais pas pour être honnête. C'est quoi. Qu'est-ce qui fait. Tu disais que t'as pas le choix, il faut que tu trouves des entreprises pour qu'on comprenne un peu la réalité d'une aventure comme ça.
La réalité, si tu veux, c'est que il faut du financement et voilà.
C'est pour payer le matériel les permis.
Et c'est ça, et les assurances, le transport pour y aller. Après, il y a 3 ans de préparation. 3 ans de préparation, c'est aussi du budget. Alors moi je mets une partie, c'est sûr, c'est certain. Mais de l'autre côté, j'ai aussi une famille, j'ai aussi, si tu veux, je suis pas tout seul, quoi, je peux pas tout mettre là-dedans.
Ouais.
Et c'est pour ça, et je pense que n'importe quelle personne que tu as eue a dû te dire que c'est, je sais pas, là, on est parti sur une base de 50 000 euros, mais je pense que ça sera plus au fil du temps, si tu veux.
Ouais.
Mais oui, il faut trouver des gens qui sont passionnés, qui ont envie de suivre. Qui ont envie. Après, c'est délicat parce que c'est un projet personnel, tu vois, et donc il faut qu'il y ait un vrai intérêt après derrière pour les gens, les partenaires, tu vois.
Ouais.
Et non, et sans eux, sauf si tu es, si tu gagnes au loto, mais sans eux, je pense pas que tu puisses faire ça, quoi.
Ouais. Ouais. Oui, à moins d'avoir des fonds. Des
poches énormes. Bien... Ouais.
Ouais, c'est ça. Mais ok. Ouais, il me semble que. Tu me dis si je me trompe, hein, je sais pas si tu as déjà regardé dans le détail, mais il me semble que ce qui est extrêmement cher, c'est les assurances en fait.
Oui, c'est ça. Ouais.
Parce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut une assurance spéciale. Et il faut que, en gros, si t'arrive quelque chose, ton assurance puisse affréter des secours spécialisés. Ouais, donc on va pas chercher quelqu'un en Arctique comme ça.
En plein milieu du truc. Non, mais c'est ça.
Ouais.
C'est exactement ça.
Ok. Donc, ok, ouais, intéressant. Bah, tu vois, ça avait déjà été galère pour moi quand je suis allé au Népal parce qu'il te faut des assurances. Il te faut un papier de ton assurance comme quoi tu es couvert, que le secours en montagne avec évacuation par hélicoptère est couvert. Mm-hmm. Parce que déjà, il y a un peu une galère avec les assurances classiques, tu vois, pour leur faire comprendre qu'il te faut un papier tu vois, spécifique comme ça quand tu as une assurance lambda. Donc, je pense que ouais, quand tu pars, que tu dis je veux atteindre le pôle sud, est-ce que vous m'assurez ça doit être des démarches un peu différentes. Super. Quel parallèle est-ce que tu vois, toi, entre cette aventure qui va arriver, qui est en cours de préparation, et l'univers de la cuisine
Alors, je ne sais pas trop. Je pense que réellement, c'est juste donner le meilleur de soi-même à chaque fois. Tu vois,
ouais.
Parce qu'au final,
de dépassement.
Ouais, c'est ça. Si tu veux, la cuisine, surtout, j'aime pas dire ça parce que j'aime pas le côté où un restaurant gastronomique est mieux qu'un restaurant bistronomique, ou tu vois, j'aime pas trop dire ça. Mais si tu veux, si tu fais les choses bien, voilà, on va dire ça. Si tu fais les choses bien, que ça soit dans n'importe quel restaurant, quel type de restauration, ça prend du temps.
Ouais.
Enfin, il faut être réglo, il faut être, il faut que ce soit droit, il faut que ce soit voilà. Et dans le sport, surtout là où je veux aller, c'est la même chose, tu vois. Il faut, il y a un moment donné, j'aurais plus le droit à l'erreur, quoi. Et
ouais.
Justement, c'est ça qui me plaît, tu vois. C'est ce côté, si tu veux, je suis obligé de me mettre quelques barrières et pour pas sortir, tu vois. Je sais pas si c'est trop clair ce que je dis, mais
si cette notion, tu vois, d'aller vraiment au bout des choses, et c'est intéressant parce que ça fait plusieurs fois que tu le dis, tu vois, l'idée de quelque part de pas avoir le choix, tu vois, c'est un peu aussi ça que j'entends, c'est-à-dire que tu parles plus de projet, tu parles déjà d'aventure, un peu comme pour tu vois, t'as plus le choix en fait. Maintenant, ouais, tu l'as communiqué
ça,
en plus.
C'est ça, exactement. Et j'ai besoin de ça pour tenir, tu vois, pour pas sortir des clous et retomber dans des travers de nourriture.
Ouais.
Voilà, des choses comme ça.
Alors, les travers de nourriture, on en a un petit peu parlé avant le podcast. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, hein, t'as enchaîné quand même à chaque fois des gros défis sportifs. Bon, 60 km pour un premier trail, voilà. Ironman, deuxième Ironman. Et à chaque fois, si j'ai bien compris, entre
ça
chacun de ces défis...
Aussi fortement que ça monte, si tu veux.
Ouais, ok. Et donc, il me semble que tu as décidé de faire quelque chose aussi avec une asso, c'est ça par
Ouais, c'est ça. En fait, on va monter une association qui va s'appeler ACT, qui est le nom de l'expédition. Et ACT, en fait, c'est quoi? C'est un peu le... Si tu le mets à l'envers, en fait, c'est TCA. Et les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Et en fait, c'est ce que je vis un peu au quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu peux avoir de l'anorexie, de la boulimie. De mon côté, c'est plus l'hyperphagie. En fait, c'est un peu je suis un peu un mangeur d'émotions. Je sais pas gérer les émotions, peut-être comme tout le monde, et je le fais en mangeant, tu vois.
Ça peut être qu'elles soient positives ou négatives.
Exactement. Exactement. Okay. Et c'est un réel problème, hein. C'est jamais bien de pas être bien dans son corps, tu vois, au-delà du poids, ouais. De la peser elle-même. Et on m'a demandé depuis quand j'ai ça, et c'est là où je me suis dit, ben, en fait, j'en sais rien. Et je pense réellement que c'est quand j'ai commencé justement ces mauvais régimes, tu vois, quand j'ai commencé mon défi du trail, où j'avais toujours cette obsession de balance, et je le dis aujourd'hui, c'était un truc où si j'avais 200 grammes de trop, je pouvais me faire vomir. Tu rentres dans un cercle qui est pas très sain, tu vois, c'est pas très bon. Et c'était quelque chose que je disais pas jusqu'à maintenant. C'est une maladie assez personnelle, je pense, et chacun vit différemment. Mais moi, c'est quelque chose que je parlais pas, tu vois. Jusqu'à un jour où il y a une personne qui m'a interviewé pour une petite vidéo sur TikTok, et ça avait fait énormément de bruit pour un homme de 36 ans qui parle de troubles alimentaires. Tu vois, souvent on met ça avec des jeunes adolescentes, voilà.
Ouais.
Et on peut être un homme, avoir 40 ans et vivre de ça. Enfin, ouais. Vivre de ça, vivre avec ça.
Ouais, ouais. Ouais. C'est hyper intéressant. Je te mettrai vraiment en relation avec Nahuel, dont je te parlais un peu plus tôt, parce qu'il en a parlé. Donc, Nahuel, il est venu deux fois sur le podcast. Mm-hmm. La deuxième fois, il n'y a pas très longtemps, pour parler il a fait un trail en Écosse. En moins de 23 heures et de 24 heures et il expliquait, il parlait en fait des troubles alimentaires et du fait qu'apparemment c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on pense dans le trail, sauf que personne n'en parle dans le trail à son niveau, mm-hmm. tu vois, donc pro en fait, mais que personne n'en parle. Et donc lui, comme c'est quelqu'un qui aime bien mettre les pieds dans le plat, tu vois, il en a parlé, il expliquait que lui, c'est un vrai problème, qu'il a des périodes un peu down où il prend énormément de poids, enfin bref, que ça, ouais, pas top. Non, en tout cas, il a des difficultés à gérer ça aussi. Donc c'est cool parce que j'ai l'impression que tu vois que ça fait partie de ces sujets qui commencent à sortir qui viennent un peu casser le mythe du t'es sportif ou tu te lances dans des aventures, ça veut dire que tu vis hyper sainement, que t'es, tu vois, végétarien, que tu pèses ta nourriture, que tu fais du yoga le matin en te réveillant. Bah, en fait, tout le monde a des challenges, y compris les gens qui se lancent dans le sport et l'aventure. Du coup, ACT, ça va être quoi vos missions? Est-ce que tu sais déjà quel type d'action vous allez lancer?
Oui. L'idée, c'est déjà, premièrement, d'aller dans les écoles, de parler de l'expédition et un peu, tu sais, comme Rémi Gaillard, de dire n'importe qui peut faire n'importe quoi. Je crois que c'est ça le...
Ouais, je crois que c'est ça.
Et du coup, juste pour montrer, parce que je reste persuadé quand j'échange des fois sur l'Ironman ou des choses comme ça, parce que quand tu dis ça, tu vois, pour être tout à fait franc, quand tu dis je prépare l'expédition ou je prépare mon Ironman, le premier truc que font les gens, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent mon ventre.
Ouais.
Tu vois, mais c'est sincère, hein. Et je te cache pas que c'est très blessant, parce que t'as juste envie de dire qu'est-ce qu'on fait. je mets un short et on court ensemble et voilà. Non mais tu vois ce que je veux dire. Et ça peut être très blessant. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de juger les gens sur leur physique et parce qu'on se rend pas compte. Hein. Mais ça peut être très difficile. Surtout après quand t'es encore plus jeune, tu vois. Je pense qu'après tu peux rentrer et c'est comme ça que ça démarre. Mais tu peux rentrer dans des petits cercles vicieux. Et donc nous du coup l'idée c'est de faire ça, c'est d'aller dans les écoles, de parler du projet, de l'expédition ACT et de notre association qui est comme tu disais avant, mettre les pieds dans le plat, dire que c'est une maladie, que enfin se faire vomir c'est pas quelque chose de tendance, loin de là, c'est pas quelque chose de cool, de parce que ça j'ai pu le voir hein, sur les réseaux qu'il y avait un côté où ben, c'était tendance, c'était cool de faire ça, alors que pas du tout.
Ah ouais.
Ouais, il y avait un côté où c'est pas grave. Enfin, tu vois, chez les jeunes, c'était ça. Mais non, c'est vraiment pas une bonne chose et qu'il faut en parler, tu vois.
Ouais.
Et surtout, alors je défends pas les garçons quoi que ce soit, mais surtout chez les hommes, tu vois, on voit que c'est vraiment un vrai sujet tabou. Bah, tu le disais avant sur le trail, tu vois. Et, ouais.
Et bon, dans plein de disciplines, hein. Tu vois,
pour revenir, bien sûr.
Moi, je faisais beaucoup de, j'ai fait du judo à haut niveau assez jeune. Du coup, il y avait la notion de régime parce que tu as des catégories de poids. Donc, l'objectif, c'est d'être à la limite max de ta catégorie de poids. C'est-à-dire, moi, j'étais en moins de 90, bah, il fallait que je sois à 89,9 kilos à la pesée, tu vois. Mais du coup, ouais, j'ai fait des régimes. La dernière année à haut niveau, j'étais en régime pendant 10 mois d'affilée, tu vois. Et à faire des trucs pourris. Des fois, ça m'est déjà arrivé de perdre 3 kilos en 3 jours. Des trucs complètement débiles. Et ça laisse des traces, tu vois.
C'est vrai qu'aujourd'hui,
dans une préparation pour la PTL, tu disais que tu cherchais un coach, tu avais recommandé Théo.
J'ai du coup regardé, je vais le contacter là.
Top. Bah, quand on avait commencé à échanger, on avait forcément parlé de la partie nutrition, parce que je m'étais dit que je voulais arriver sur la PTL avec un peu moins de poids. Je faisais 96, 97, d'accord. Je m'étais dit qu'il faudrait que je sois à 90, comme c'est 340 km avec 26 000 mètres de dénivelé, si j'ai moins de poids à porter, bah, c'est mieux, tu vois. Bah, en fait, j'ai complètement bloqué, tu vois. Alors qu'il ne m'a pas proposé un régime sévère, il me disait juste, bah voilà, regarde ce que tu manges, essaie de voir par rapport au volume avec, ton pouce, ton poignet, la paume de ta main. Impossible, tu vois. J'ai essayé une semaine, j'ai dit non, mais c'est mort, je ne peux pas me restreindre comme ça, tu vois, je ne peux plus. Donc, ça me parle carrément ce que tu expliques, tu vois, sur le fait que. Oui, on associe souvent ça à une période de la vie, tu vois, où on fait très attention à son image, etc. Mais en fait, j'ai quand même l'impression que c'est un peu un vrai sujet dans le monde du sport et peut-être
ouais,
pas
ouais,
que.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Donc, cool en tout cas qu'il y ait cet asso qui arrive. L'idée, c'est quoi? C'est d'en faire un espèce de mouvement que les gens pourraient rejoindre ou tu veux maintenir ça dans ta région?
Non, je sais pas trop. C'est au tout départ parce qu'en fait, pour être tout à fait franc, on avait contacté une association et on n'a jamais eu de retour. Et, okay. Et voilà, je trouve ça en même temps tellement triste parce que je me dis n'importe quel gamin qui les appelle, ben s'ils sont de le même retour que moi j'ai eu, ben je suis désolé, mais.
Et ouais.
Et voilà. Et du coup, je me suis dit non, maintenant. On va lancer notre propre truc et l'idée, oui, c'est ça, c'est d'aider, c'est peut-être récolter des fonds pour pouvoir animer les ateliers, je sais pas. On a plein de trucs en tête, il faut qu'on les pose sur papier, mais d'animer des ateliers sur la cuisine, comment manger du chocolat, mais en mode cool, tu vois, sans prise de tête et sans après regretter ou quoi que ce soit. Et voilà. Et ça peut être, je sais pas, sur des ateliers sur 2 jours, tu vois.
Ouais.
Voilà, où encore une fois l'humain est là, mais où on crée un vrai échange avec je sais pas, avec un professeur, avec un docteur, avec un nutritionniste, avec
super,
enfin un chef de cuisine, moi ou autre hein, bien sûr, et des jeunes, moins jeunes, voilà. Et peut-être une fois que tout ça est lancé, peut-être que moi je laisserai la place à quelqu'un qui gérera parce que moi enfin ça prend aussi beaucoup de temps.
Et oui.
Et si on veut faire les choses bien, il faut savoir voilà.
Super. Excellent. Bah écoute, on a parlé cuisine, on a parlé sport, aventure direction le pôle sud en 2025 et cette association ACT. Donc tu vas lancer, hein, qui est pas encore lancé.
Non, on va. Là, j'ai rendez-vous la semaine prochaine justement et on va lancer ça, je pense, pour début d'année prochaine.
Ok.
Voilà.
Donc début 2023, du coup, au moment où l'épisode sortira, ce sera déjà live.
Ah bah super.
Si les gens veulent entrer en contact avec toi, te suivre pour la préparation de ton expédition, le plus simple, c'est Instagram.
Ouais, c'est ça. C'est Instagram, Metzger Frédéric. Okay. Voilà. On va peut-être créer une page. C'est un peu la discussion de créer peut-être une page exprès pour ça. Voilà. Mais ça sera ça sera dit dans sur mes réseaux.
Super, génial. Excellent. Fred, par quel message est-ce que tu voudrais conclure cet échange?
Peut-être plusieurs. Je voudrais juste d'abord remercier Nadège qui nous a mis en contact et qui fait un chouette... Enfin voilà, je vous invite vraiment à voir ce qu'elle fait. Enjoy Trip, c'est vraiment super. Et parce que du coup, j'ai eu la chance qu'elle vienne chez nous au 48. Voilà, et... peut-être qu'on peut juste croire tout simplement en ses rêves.
Ouais.
Voilà.
Excellent, très bon message. Et je pense que tu l'exemplifies, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est ce que tu illustres tu vois, à travers tout ce que tu fais. Croire en ses rêves, ne pas se laisser freiner dans ses rêves par son entourage ou ses amis, ses proches. Tu vois, c'est aussi un peu ce que je retiens. Qui le font pas toujours, tu vois, par mauvaise intention, mais
non, bien sûr,
souvent
bien sûr.
On projette ses propres peurs ou ses croyances sur l'autre. Donc, super message. Écoute, Fred, un grand, grand merci. C'était très, très intéressant d'en apprendre un petit peu plus sur l'univers de la cuisine, surtout au niveau à laquelle tu la pratiques, un art, tu vois. moi, en tout cas, c'est un peu l'impression que j'en ai eu. Et puis top de voir comment est-ce que tu arrives finalement à marier, tu vois, l'univers du sport avec l'aventure, avec la cuisine, avec l'associatif. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour en apprendre plus et te suivre, foncez, le lien vers l'Instagram de Fred sera en description.
Ouais, avec grand grand plaisir.
Et puis je te souhaite une excellente préparation, surtout pour l'aventure. Elle a un nom d'ailleurs, cette aventure, c'est Acte aussi. Hein,
c'est Acte aussi, ouais, c'est ça, ouais.
Ok, Acte. Donc, excellente préparation pour Acte. Et puis, écoute, 2025, c'est dans pas si longtemps que ça, donc on va prendre rendez-vous pour un épisode de débrief quand même.
Ouais, avec grand plaisir. Parce qu'en plus, il y a d'autres événements pour préparer justement ça, et voilà.
Ah, le teasing. Teasing de folie. Ok, écoute, un grand, grand merci, Fred. Excellente journée à toi, et puis à bientôt, du coup.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast, ou par email à hello@lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour que vous viviez de super expériences audio avec mes invités. Chaque épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cet épisode à au moins 3 personnes qui aiment se dépasser. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcasts ou Spotify, prenez quelques secondes de votre temps maintenant pour m'y laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine pour un nouvel invité.